Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Cédric Fuentes, Arjuna Andrade, Louis Drillon, Julie Delabrosse et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Jordan Fuentes.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Cette semaine, nous revenons aux sources de l'impôt, depuis les aides féodales de l'Ancien Régime jusqu'au débat contemporain, marqué ces jours-ci par le rejet des taxes sur le carburant. Demain, nous verrons comment la fiscalité a tenté de devenir un instrument de justice sociale. Mercredi, on s'envolera vers les espaces vierges de l'impôt, les paradis fiscaux. Jeudi, enfin, on se demandera si les taxes peuvent sauver la planète. Mais d'abord, c'est le rôle de l'impôt dans la formation de l'État moderne qui va nous occuper. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons parler de la perception à la fois physique et symbolique de l'impôt sous l'Ancien Régime et après la Révolution, en compagnie de Mireille Touzry, professeure d'histoire moderne à l'Université Paris-Est Créteil, autrice de l'invention de l'impôt sur le revenu, la taille tarifée 1715-1789, en compagnie également de Jean-Marie Monnier, professeur d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et auteur de « Parlons impôts en 30 questions » publié à la Documentation française. Et en fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho.
Monseigneur le Grand.
Buenas tardes, amigos.
Les impôts sont là, monsieur le ministre.
La gabelle, la taille, l'impôt sur les épices, pour cette année, ça fait combien ?
200 000 lucas, monseigneur.
Mais l'année dernière, ça faisait beaucoup plus.
Oui, mais la récolte avait été très bonne.
Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. Plus un pot. Tout ça, c'est pour le roi.
Mais Don Salluste, nos gens sont terriblement pauvres et...
C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Allons ! Allons ! Dépêchez-vous ! Un village à visiter ! Allons ! Ramassez-moi ça.
Mireille Touzry et Jean-Marie Monnier, bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez reconnu bien sûr Louis de Funès, inimitable Don Salluste, le très cupide ministre des Finances du roi d'Espagne dans la folie des grandeurs. Alors l'émergence de la fiscalité, on va le voir, est intimement liée à la constitution des États modernes. L'impôt a donc joué un rôle essentiel dans la centralisation de l'État français, Mireille Touzry.
Oui, on peut même dater l'émergence de l'impôt royal de façon extraordinairement précise, en la liant à la guerre des Cent Ans et tout particulièrement à la captivité de Jean le Bon et à la nécessité de payer la fameuse rançon, 10 tonnes d'or demandée par les Anglais qui pensaient que nous ne pourrions jamais payer, nous, entre guillemets. Et il a fallu absolument s'organiser dans la durée pour assumer ce poids, pour un motif sur lequel tout le monde était d'accord, il fallait libérer le roi. Donc on peut dire qu'à ce moment-là, il y a vraiment une organisation qui se met en place sous l'effet de la nécessité. Alors, qui va durer.
On va revenir en effet sur ces différentes étapes que vous évoquez, mais peut-être faut-il expliquer avant que c'est par exemple le sociologue Norbert Elias qui estime que l'instauration d'un monopole fiscal constitue une étape essentielle dans la sociogénèse de l'État, Jean-Marie Monnier.
Oui, on doit à Norbert Elias et en particulier à son ouvrage « La dynamique de l'Occident » d'avoir mis en évidence effectivement ce fait que la genèse de l'État moderne se fait par monopolisation du pouvoir de lever l'impôt. Parallèlement, d'ailleurs, à la monopolisation du droit à exercer la violence légitime. Les deux mouvements de monopolisation sont parfaitement mis en évidence, effectivement, par Norbert Elias.
Alors, comment l'État est-il parvenu à asseoir cette domination par l'impôt ? C'est ce que nous allons tenter de comprendre. Et dans un premier temps, au Moyen-Âge, l'impôt est considéré comme une charge exceptionnelle liée à la guerre. C'est par exemple Philippe Auguste qui lève la dîme Saladine pour financer les croisades au XIe siècle, Mireille Touzry.
Oui, la grosse difficulté va être le passage à la permanence. Parce que tout le monde est assez d'accord pour acquitter des taxes exceptionnelles, surtout quand il s'agit de croisades, qui est un grand motif aussi pour faire payer les clercs, les religieux. Ça, c'est très très bien.
Même si elle est déjà très impopulaire, cette dîme saladine.
Oui, oui, mais le motif est indiscutable. Et du coup, Philippe Auguste et puis quelques successeurs vont réussir à faire payer notre très très large mesure l'Église, ce qui n'était pas absolument évident. Alors, on essaye de faire passer tout le monde pour des hérétiques. Hein. Alors, quelquefois, ça marche pas très bien. Alors, Philippe le Bel n'a pas réussi à faire passer les Flamands pour des hérétiques. Et donc, ce qui l'a obligé à étendre davantage l'assiette. Et tout le problème est le passage à la régularité. Et ce n'est pas gagné, en fait, dans les principes avant la révolution de 1789. Dans les faits, ça fonctionne à partir du 15e siècle, à partir de la fin de la guerre de Cent Ans. Justement, l'entrée dans un régime de paix, paradoxalement. Mmh. Mais dans les principes, jamais. Il faudra attendre la déclaration des droits de l'homme pour que l'impôt soit vraiment un droit de l'État.
Vous l'avez dit tout à l'heure, la guerre de Cent Ans au XIVe et XVe siècle constitue un tournant dans la levée des impôts. Ces aides féodales qui étaient des recettes extraordinaires deviennent permanentes. Alors comment est-ce que cela se passe? Et racontez-nous cet exemple donc, de la rançon de Jean le Bon. Il est fait prisonnier à Poitiers en 1356 et c'est sa rançon qui, dites-vous, constitue en quelque sorte cet acte de naissance de la fiscalité royale.
Le montant de la rançon n'est pas fixé tout de suite, il est fixé en 1360. Donc c'est le fils de Jean le Bon, le futur Charles V, qui tient les rênes du royaume à ce moment-là. Et c'est une des clauses du traité de Brétigny qui permet de revenir à la paix. Il faut payer parce que le roi est prisonnier, mais il y a aussi à peu près une centaine d'autres personnes qui sont retenues en otage, ce qui n'est pas rien. Et puis donc c'est la loi de vue par ce traité. Alors évidemment c'est un paiement qui ne se fait pas d'un coup, même si la première année il faut quand même payer 500 000 écus d'or, je crois, enfin une très grosse somme. Alors ceux qui vont payer c'est le royaume du temps, c'est-à-dire le Languedoc pour une grosse partie. Et puis le pays d'Oyle et le massif central qui est dévasté à ce moment-là par les routiers qui sont les soldats des bandés, hein, qui mettent à feu et à sang la région. Le massif central est hors d'état de participer. Mais ces deux grands pôles géographiques, le nord et le sud du royaume, et évidemment ni la Bretagne ni l'Aquitaine, ni la Provence, enfin toutes les régions qui ne font pas partie du royaume, ne sont concernées. Ce qui va poser des difficultés, en fait, parce qu'il va manquer à ces pays ce moment absolument fondateur. Donc pour y installer une fiscalité permanente, ça va être beaucoup plus délicat, en particulier en Aquitaine, où les révoltes vont être très tardives.
Tout l'enjeu, Jean-Marie Monnier, ça va être ce passage des recettes extraordinaires liées à la guerre à des recettes ordinaires, permanentes.
Oui, il s'agit de rendre permanente l'extraordinaire, de rendre permanente la captation d'une partie des ressources du royaume, alors que, effectivement, ça n'était absolument pas acquis dans les mœurs, si je puis dire, cette permanence. Et on peut dire que, finalement, la guerre qui est permanente, l'emprunt qui est lui-même permanent pour financer aussi la guerre rend la nécessité de payer l'impôt pour gager en particulier l'emprunt, cette nécessité, elle devient de plus en plus forte. Et donc, progressivement, les monarques vont imposer cette règle, avec plus ou moins de succès d'ailleurs, d'un impôt permanent.
Alors en quoi consiste l'impôt sous l'Ancien Régime jusqu'en 1789? Ce qu'il faut expliquer, Mireille Touzery, c'est que la fiscalité française se divise en une fiscalité royale, une fiscalité d'église et une fiscalité seigneuriale.
Oui. Oui, ce qui est très important vu du point de vue de celui qui paye, évidemment. Même si tout le monde ne paye pas la fiscalité seigneuriale, il y a des droits qui ne pèsent pas sur tout. Et tout le monde ne paye pas non plus la fiscalité d'église. La dîme est payée par les fermiers qui récoltent. Donc, par exemple, un artisan ne paye pas la dîme. Un propriétaire foncier ne paye pas la dîme non plus. Donc, tout ne pèse pas sur tout le monde. Je voulais ajouter un petit mot à ce que disait mon collègue. Il y a des étapes. Le coût de la guerre n'a rien à voir entre la guerre de 100 ans et le coût qui va devenir vraiment très important à partir de la guerre de 30 ans, donc le 17e siècle. Là, il y a des sauts d'échelle qui se produisent, l'armement se développe, les armées deviennent plus importantes, les conflits s'internationalisent. Donc, il ne faut pas imaginer un poids de l'impôt exorbitant au Moyen-Âge. Non, même encore au XVIe siècle. Les guerres d'Italie, comme leur nom l'indique, ne se passent pas dans le royaume. François Ier les finance sur l'Italie, si j'ose dire, avec des pillages, etc. Donc c'est moins lourd. Il y a vraiment des étapes à distinguer.
Vous avez parlé donc des impôts d'église et des impôts seigneuriaux, mais est-ce que les impôts les plus impopulaires ne sont pas justement ceux qui sont prélevés par l'État, par la monarchie, qu'ils soient directs ou indirects? On cite souvent la gabelle, cet impôt indirect sur le sel qui concentre les critiques.
Alors oui, il faut bien distinguer les directs et les indirects. Finalement, les plus légitimes sont les directs parce que la taille, plus tard, nettement plus tard, milieu du XVIIIe siècle, le XXe, parce que l'on perçoit bien justement que c'est l'impôt, l'argent du roi. Au contraire, les indirects sont levés assez rapidement par des compagnies fermières auxquelles le roi délègue le prélèvement. Et du coup, ils ne sont pas perçus comme étant des impôts pour le roi. Et les fermiers signent un bail, comme c'est tout à fait classique avec le roi. Ils s'engagent à fournir une somme fixe par année.
C'est ce qu'on appelle la ferme générale.
Oui, puisqu'au XVIIIe siècle, avant le XVIIIe siècle, il y a une multitude de fermiers. C'est très dispersé. Et on concentre tout ça en 1726 au sein d'un seul organisme pour plus d'efficacité. Et donc, en échange d'un cahier des charges extrêmement précis, les fermiers généraux ne font pas du tout ce qu'ils veulent. Le bail, c'est un document de 10 cm d'épaisseur qui contient tous les tarifs dans telle ou telle région, les fermiers perçoivent. Mais évidemment, comme ce sont des impôts à la consommation, le montant fluctue suivant la conjoncture. Une bonne année, les indirects vont rapporter beaucoup. On va faire beaucoup de cochonnailles, donc on achète du sel, etc. Une mauvaise année, au contraire, personne ne boit de vin, alors les taxes du vin ne rapportent pas. Donc les fermiers prennent un risque, ce sont des gens qui ont un profil.
Ils prennent un risque parce qu'ils avancent cet argent
auprès du roi. Ils avancent et ils s'engagent à payer une somme fixe. Donc pour le roi, c'est très confortable, il sait exactement ce qu'il a. Mais alors du coup, ces agents de la ferme générale ne sont pas perçus comme des agents du roi. Donc les habitants ont le sentiment de payer pour des privés qui, en bonne année, s'enrichissent sur le dos du roi. Et ça ne leur plaît pas du tout, et c'est ce qui fait leur impopularité dans les années fastes. Parce que dans les mauvaises années, les fermiers généraux peuvent faire faillite, c'est-à-dire lever moins qu'ils se sont engagés à payer.
Et en l'occurrence, le XVIIIe siècle est un siècle de prospérité économique.
Exactement.
Donc les impôts indirects vont rapporter de plus en plus parce que la consommation augmente. Alors, à l'indifférence des impôts indirects, il y a les impôts directs qui, eux, sont gérés directement par l'administration monarchique, soit par des officiers royaux, soit par des commissaires du roi. Et alors, vous avez cité, Mireille Touzry, la taille, qui est le principal impôt prélevé directement par la monarchie. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que selon les régions, elle n'est pas prélevée de la même façon et elle donne lieu à de nombreuses exemptions, Jean-Marie Monnier.
Oui, il faut distinguer en quelque sorte la taille personnelle qui est perçue dans un certain nombre de régions.
Essentiellement dans le Nord.
Voilà, c'est ça. Le Nord, partie du centre, et de la taille réelle qui est plutôt perçue dans le Sud. En d'autres, les deux termes, personnel et réel, servent à qualifier le fait que l'assiette n'est pas la même ou en quelque sorte l'objet qui est taxé n'est pas le même. La taille réelle porte sur des choses.
Sur le foncier, essentiellement.
Sur le foncier, et donc c'est la valeur locative, c'est l'équivalent de notre valeur locative qui est taxée.
Alors que la taille personnelle, ce sera sur le revenu.
Alors que la taille personnelle, c'est un équivalent d'un impôt sur le revenu. C'est l'ensemble, effectivement, des revenus d'une personne qui est taxée. Et donc on va essayer avec la taille personnelle, y compris d'introduire des systèmes de déclaration, voire dans certains lieux des barèmes progressifs. Il y a des tests comme ça qui sont tentés sur la progressivité.
Et la taille personnelle est vécue comme un impôt de l'inégalité sociale, Mireille Touzry ?
Oui, il y a des distinctions, il y en a dans dans les deux régimes, taille réelle ou taille personnelle. Mais effectivement, c'est peut-être plus visible dans les pays de taille personnelle parce qu'il y a des personnes privilégiées, en l'occurrence les exempts, comme on dit par définition, c'est-à-dire le clergé et la noblesse. Hein. La noblesse, rappelons-le, paye de ses deniers au moment de la guerre et ça lui coûte cher. Donc, et puis elle paye de son sang aussi. Et puis il y a une foultitude au XVIIIe siècle de privilégiés, hein, c'est-à-dire des gens qui achètent avec leur office une exemption de taille. Donc ceux-là, effectivement, sont en dehors du circuit. Et surtout, ça devient un marqueur social extrêmement fort. Et ça, jusqu'à la fin, c'est infamant de payer cette taille personnelle parce que ça veut dire que vous ne faites pas partie des élites du royaume. Et ça, on vous le dit bien, chaque année, hein, chaque année, vous voyez que vous êtes sur le rôle de taille et pas un tel. Donc, alors que dans le sud du royaume, pour simplifier la géographie, ce sont des terres qui sont exemptées, les terres réputées nobles, donc qui théoriquement ont été données par le roi, en fait c'est ça, pour mettre la noblesse en état de servir, et puis le clergé en état de faire ses prières pour tout le monde.
Mais là tous les propriétaires payent, qu'ils soient nobles, ecclésiastiques ou roturiers.
Tous les propriétaires de terres non nobles, oui, qu'ils soient nobles ou roturiers. Donc là c'est très important parce que du coup dans le midi, la taille ne fonctionne pas comme un marqueur social. Il n'y a pas d'infamie à payer la taille du tout. Hein. Et c'est ce régime du Sud, en fait, qui est un impôt foncier, donc, qui, moyennant donc, l'abolition des privilèges, donc la disparition de cette distinction entre terre noble et terre roturière, c'est ce régime-là qui va être adopté par la Révolution française.
Alors avant cela, il y a eu plusieurs tentatives de réforme fiscale, et notamment le projet de dîme royale proposé par Vauban à la fin du XVIIe siècle.
Vauban s'initie de plus en plus précisément aux impositions et notamment à la taille, qui est l'impôt qui taxe le plus lourdement le peuple. Et il serait favorable à une taille réelle, c'est-à-dire une taille sur les terres, ce qui est pratiqué dans le sud de la France. Donc il fait un premier projet de réforme fiscale, mais il est impossible à l'époque de faire un cadastre exact, il faudra attendre Napoléon. Donc il renonce, surtout sous l'influence de celui qui va devenir son secrétaire, l'abbé Ragot de Beaumont. Il est ecclésiastique, donc il lui donne comme modèle la dîme ecclésiastique, d'où le titre du projet de dîme royale de Vauban, qui est déjà rédigé en 1699, rédigé à deux mains en quelque sorte. Mais Ragot de Beaumont donne à Vauban en quelque sorte le modèle de la dîme ecclésiastique en lui disant « personne ne la conteste, vous pouvez prélever un dixième de tous les revenus ». Et Vauban rédige en fait ce projet avec Ragot de Beaumont, le lit au roi pendant trois soirées en 1700, le roi applaudit et il doit être normalement appliqué.
L'historienne Michèle Virol. Alors, que va-t-il advenir de cette dîme royale, Mireille Touzry?
Pas grand-chose. D'abord, l'abbé Ragot de Beaumont est extrêmement optimiste quand il dit que personne ne conteste la dîme royale. Il y a des révoltes absolument tout le temps, par-ci, par-là. On ne paye pas la dîme royale dans la bonne humeur. Deuxièmement, l'idée de démarquer au niveau du royaume l'impôt ecclésiastique n'est pas faisable et on s'en aperçoit extrêmement vite, on est quand même dans des niveaux extrêmement différents. Le roi ne peut pas, même s'il a une administration qui n'est pas négligeable, ne peut pas faire un prélèvement en nature. Il faut ensuite aller vendre le blé, les récoltes diverses sur les marchés, c'est pas possible. Et puis surtout, on va sous-taxer toute une série d'activités, tout ce qui est artisanat, industrie, tout ce qui est production non décimable par l'Église, par exemple les animaux, le produit de l'élevage, c'est absolument pas gérable. Donc il y avait une bonne tentative de partir du terrain en quelque sorte, mais qui sous-estime très largement le fonctionnement concret de l'impôt. L'administration va étudier le dossier de Vauban, ça c'est sûr, hein. On va même en parler pendant tout le XVIIIe siècle, mais dès qu'on essaye de passer à la pratique, c'est abandonné immédiatement.
Ce projet de dîme royale va faire l'objet de multiples débats, mais ne va jamais voir le jour, Jean-Marie Monnier.
Oui, et en fait, on pourrait dire que tout le XVIIIe siècle, c'est un siècle de réformateurs fiscaux, hein. C'est une succession de projets de réforme, Vincent de Gournay, Silhouette, Je pense Rousseau, par exemple, aussi, un projet de réforme, Forbonnet. Donc tout au long du siècle, on a un ensemble de réformateurs fiscaux qui écrivent sur l'impôt, qui projettent des réformes. Silhouette a été ministre, donc il essaye de mettre en œuvre sa réforme, ça échoue. Voilà, on a comme ça, tout au long du siècle, des tentatives de réforme de façon à sortir de ce système par le haut, un peu comme l'Angleterre fait, c'est-à-dire parvenir à réformer la fiscalité de manière progressive.
Alors on échoue à réformer la fiscalité de façon globale, mais au XVIIIe siècle, il y a tout de même de nouveaux impôts qui apparaissent et qui sont censés toucher tous les contribuables. C'est la capitation, l'impôt du dixième ou encore l'impôt du vingtième. L'objectif, Mireille Touzery, c'est de diminuer les privilèges et les exemptions, mais dans les faits, les nobles et le clergé continuent d'échapper au moins en partie aux impôts directs.
Alors l'objectif d'abord, hein, c'est de réussir à financer les guerres, ce qui est évidemment complètement illusoire. On n'a jamais réussi à financer une guerre par des impôts depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Hein. La guerre de 14, la guerre de 39, on ne les a jamais financés par des impôts, mais par des emprunts, par de l'inflation. Donc l'objectif est illusoire. Mais enfin, bon. Ensuite, alors, on essaye évidemment d'élargir l'assiette, c'est-à-dire d'imposer davantage de monde, davantage de choses. Davantage de choses, c'est encore ce qu'il y a le plus simple par les impôts indirects, ce qui fait qu'à la veille de la Révolution, les recettes du roi, c'est 60% d'impôts indirects, 40% d'impôts directs. Quand vous voulez réformer les impôts directs, c'est beaucoup plus délicat parce que vous touchez à l'ensemble de la structure sociale et plus que sociale, sociopolitique. Les privilèges ont un sens. Donc si on les supprime, on touche en fait au cœur du fonctionnement de l'État. Alors qu'est-ce que la noblesse ? Comment va-t-elle se voir ? Quelle est la place du clergé ? Et toute l'énorme résistance du clergé à être assujetti aux impôts directs s'explique un peu par ce souci de pas payer, mais bon, ça, c'est pas le principal. S'explique surtout par le souci de perdre sa place prédominante dans l'organisation de l'Ancien Régime. C'est le premier ordre, hein, c'est pas la noblesse, il faut bien se le rappeler. Et alors, pour le clergé, l'idée d'être considéré comme un contribuable ordinaire, c'est totalement impossible.
Et il y a aussi les bourgeois des grandes villes qui sont complètement exemptés de la taille, qui est avant tout un impôt rural, Jean-Marie Monnier. Donc on voit qu'on a du mal à élargir cette assiette.
Oui, tout à fait. Et donc, on arrive à la période cruciale de la Révolution avec une multiplication comme ça, une multiplicité d'exemptions, de privilèges qui seront peut-être, enfin sans doute, l'un des ferments de la révolte.
Ces exemptions et ces privilèges, Alexis de Tocqueville les décrira très bien dans son ouvrage « L'Ancien Régime et la Révolution » publié en 1856. Je vous propose d'en écouter un extrait lu par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho.
Prenons le plus odieux de tous ces privilèges, celui de l'exemption d'impôt. Il est facile de voir que, depuis le XVe siècle jusqu'à la Révolution française, celui-ci n'a cessé de croître. Il croissait par le progrès rapide des charges publiques. Quand on ne prélevait que 1 200 000 livres de taille sous Charles VII, le privilège d'en être exempt était petit. Quand on en prélevait 80 millions sous Louis XVI, c'était beaucoup. Lorsque la taille était le seul impôt de roture, l'exemption du noble était peu visible. Mais quand les impôts de cette espèce se furent multipliés sous 1000 noms et sous 1000 formes, qu'à la taille eurent été assimilées 4 autres taxes que des charges inconnues au Moyen-Âge, telles que la corvée royale appliquée à tous les travaux, aux services publics, la milice, etc., eurent été ajoutées à la taille et à ses accessoires, et aussi inégalement imposées, l'exemption du gentilhomme parut immense. L'inégalité, quoique grande, était, il est vrai, plus apparente encore que réelle, car le noble était souvent atteint dans son fermier par l'impôt auquel lui-même il échappait. Mais en cette matière, l'inégalité qu'on voit nuit plus que celle qu'on ressent.
L'inégalité qu'on voit nuit plus que celle qu'on ressent, nous dit Tocqueville. Il a été l'un des grands penseurs des injustices fiscales de l'Ancien Régime, Mireille Touzery.
Ce qui est très intéressant dans ce passage de Tocqueville, c'est qu'il montre bien l'évolution chronologique. Et il aurait pu pointer aussi mais à son époque, ça se faisait pas du tout, le changement de sens du mot privilège. Parce que ce mot est chargé très très négativement à la veille de la Révolution, ce qu'il n'est pas pendant des siècles et des siècles. Donc c'est tout à fait normal pour l'ensemble du royaume d'être géré de façon différente. Si vous voulez, ce sont les lois particulières. Bon, les Bretons ne payent pas comme les Auvergnats, ne payent pas comme les Parisiens, qui payent énormément. Hein. En indirect, c'est les plus imposés, mais on ne peut pas mettre de taille dans Paris. Et tout ça est considéré non seulement comme normal, mais même comme légitime, et les gens sont contents d'avoir leur propre statut, les Provençaux, par exemple. Et puis, à la fin du XVIIIe siècle, à partir des années 1760, cette diversité est perçue comme une inégalité, puis comme une injustice. Ça, c'est un sacré changement. On le voit bien dans les dictionnaires de langue, hein. On voit évoluer ce mot de privilège qui se charge négativement. Et ce qui monte au XVIIIe siècle, c'est quelque chose d'absolument incroyable, c'est cette aspiration à l'égalité dans un royaume extraordinairement divers.
En effet, la révolte contre l'injustice fiscale et les privilèges va être l'un des éléments déclencheurs, on le sait, du soulèvement de 1789.
Eh bien, chers frères, nous nous tiendrons en assemblée paroissiale aujourd'hui, 6 mars, dans le vestibule de l'église, pour rédiger le cahier de doléances de notre comté. Notre devoir est de saisir cette occasion pour faire connaître à notre bon roi la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume.
Moi, votre médecin, je demande l'égalité devant les impôts. De quel droit les nobles et les prêtres en sont-ils dispensés ?
Il a raison.
Moi, j'en ai assez de remuer des pierres sur des chemins pour les beaux yeux du maître.
Oui, il a raison.
Vous voulez qu'on écrive que les corvées soient abolies ?
Et la gabelle aussi. C'est une honte d'avoir acheté du sel qui est pourri et plein de terre.
C'est vrai, c'est vrai.
Je vous en supplie, laissez-nous le temps d'écrire.
Voilà un extrait du film de Robert Enrico, sobrement intitulé « La Révolution française ». Dans la scène que l'on vient d'entendre, des révolutionnaires provinciaux cherchent à faire remonter leurs exigences en matière d'impôts. Qu'est-ce qui va changer avec la Révolution française, Jean-Marie Monnier ?
Beaucoup de choses, beaucoup de choses. D'abord, ce qui va changer, c'est la mise en place des principes démocratiques de la fiscalité dans la Déclaration des droits de l'homme. Deux articles qui mettent sur lesquels, en quelque sorte, nous vivons encore. Hein, actuellement, se déroule la discussion budgétaire au Parlement. Le Parlement continue à débattre, en quelque sorte, dans les rails qui ont été édictés à l'époque et que l'on trouve dans cette déclaration.
Ces principes, c'est l'égalité devant l'impôt et le consentement à l'impôt.
Le consentement et la légalité de l'impôt. Ce qui fait que l'article 1er du projet de loi de finances, c'est l'autorisation de collecter l'impôt. Donc, nous continuons en quelque sorte à fonctionner selon ces principes qui sont des principes démocratiques fondamentaux. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on change le système. Alors, on commence par, en quelque sorte, je dirais, bazarder un petit peu tout. Hein, et ça se passe pas très bien. Et donc, on met en place de nouvelles contributions. Mireille Touzry a bien dit que la taille a permis, en quelque sorte, à fonder, enfin, en tout cas, on s'est inspiré de cette mécanique pour mettre en place une taxation, finalement, essentiellement à base foncière.
Hein. La taille réelle est étendue à l'ensemble du territoire. Donc la taille, l'impôt sur le foncier, alors que la taille personnelle, elle, est supprimée. Et les impôts indirects aussi sont supprimés.
Voilà, exactement. Donc, en fait, à l'issue du processus, on se retrouve avec 4 contributions directes. Hein, une contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties, qui rapporte grosso modo 40% de l'ensemble. On a une contribution personnelle mobilière, effectivement, la contribution sur les portes et fenêtres qui va intervenir plus tard, et puis la patente. Voilà pour l'édifice de l'impôt direct.
Alors commençons par le foncier. Ce qui est considéré comme égalitaire, c'est de taxer les biens et non les revenus. Et la terre en particulier doit être la principale source de recettes publiques.
Ah oui, c'est tout un problème ça, hein, puisque c'est le problème qui ne date pas de la Révolution. C'est en fait la difficulté, l'impossibilité pour l'administration de taxer le revenu réel des foyers. On taxe des revenus théoriques, très théoriques, puisqu'en fait, on taxe la valeur du bien, ou la valeur, d'après la valeur locative de la maison habitée. Pour pouvoir taxer le revenu réel, il faudrait des déclarations de revenus et des informations, le nombre d'enfants, la grand-mère à charge, votre état de santé, etc.
Mais ça va intervenir beaucoup plus tard.
Oui, alors ça fonctionne sous l'Ancien Régime, mais uniquement à l'intérieur de la paroisse, comme on appelle alors la commune. Il faut bien se dire que l'administration s'arrête à l'entrée des paroisses, à l'entrée des communes. Le roi dit « il me faut telle somme » et ensuite on répartit. Et à l'intérieur de la commune, ce sont les habitants qui le font entre eux-mêmes, en échange de l'obligation de payer la somme totale. C'est donnant-donnant, solidarité contre autonomie. Alors, entre eux-mêmes, ça fonctionne, parce que tout le monde se connaît. Dans les négociations de mariage, on sait parfaitement ce qu'a le voisin, le beau-père, à la poule près. Donc, ça fonctionne, d'autant qu'il y a des systèmes pour encadrer le collecteur ou le répartiteur, qui serait pas tout à fait juste. Il y a des recours en justice possibles. Mais ça, l'administration ne le sait pas. Et donc, tout un énorme enjeu pendant tout le XVIIIe siècle, ça va être la prise de connaissance par l'administration de ce qui se passe dans les paroisses. Et les gens ne veulent pas, évidemment, puisqu'il n'y a pas de voix au chapitre sur le montant de l'impôt, sur son emploi. Donc, il n'en est pas question. Et au moment de la Révolution où se produit ce séisme incroyable qui est le transfert de souveraineté, qui, j'imagine, Louis XVI, ça a dû être quelque chose d'absolument effarant pour lui. Au moment où se produit ce transfert de principe, c'est pas pour autant qu'on va être emballé à laisser voir ses revenus. Donc on va continuer parce qu'on a en arrière-plan tout ce monde de privilèges, d'inquisition fiscale, comme on dit à l'époque. Et tout le monde va être fort satisfait de cette contribution foncière qui assure l'essentiel des recettes, qui est modulée dans la justice pour atteindre les autres revenus que le foncier, parce qu'il y a quand même énormément, par la mobilière, mais elle est très minime, elle est très minime. Et on va rester sur ce régime-là, qui est réputé le plus égalitaire, même s'il ne l'est pas, jusqu'au XXe siècle.
Ce qui est intéressant, c'est que ces contributions, elles sont calculées à partir d'indices de signes extérieurs,
oui,
de richesse,
ça.
Jean-Marie Monnier.
C'est une fiscalité qui repose sur les signes extérieurs. Donc ce qu'on appelle une fiscalité indiciaire, qui signifie que l'on donne une valeur à un ensemble de signes, effectivement. Et ça va fonctionner durant... Ça se met en place, effectivement, durant la période révolutionnaire, et ça va fonctionner durant extrêmement longtemps. On est encore héritier quasiment de ce genre de fonctionnaire. Mais il faut pas oublier que la période révolutionnaire, c'est aussi une période de débat. Et on discute fortement. Il y a d'autres projets que cela. On peut évoquer. Moi j'aime bien le texte de Condorcet, si vous voulez, 1792. Il propose une contribution progressive, et il explique dans des termes tout à fait modernes ce qu'est la progressivité. Ce qui prouve que dès l'époque, si vous voulez, la progressivité est une notion connue qui est dans le débat. Robespierre, d'ailleurs, se dit favorable, à un moment donné, à une solution qui épargnerait le nécessaire pour vivre. Et puis, finalement, il fait machine arrière et il revient simplement sur cette question de l'universalité. Mais on va garder l'universalité pendant longtemps.
Donc, pas encore de progressivité, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est beaucoup en débat,
oui,
à l'époque. Et alors, il y a aussi cette question ce sont des impôts de répartition, il faut le dire, Mireille Touzery, les recettes fiscales ne dépendent pas de l'évolution de l'activité économique, mais d'un choix politique.
Oui. Depuis le Moyen-Âge, le roi demande ce dont il a besoin. On ne peut pas lever des impôts comme ça. Il n'y a pas de droit au prélèvement. Donc tout prélèvement doit être justifié. On part à la croisade, on doit délivrer le roi qui est prisonnier, on fait la guerre contre un tel. Et à chaque fois, il faut que ce soit expliqué. Donc l'impôt se répartit de façon pyramidale du haut vers le bas. Montesquieu explique très bien ça dans l'esprit des lois, avec une phrase fameuse, le peuple ne paye pas ce qu'il peut payer, j'arrange la citation, c'est pas exactement ça, mais ce qu'il doit payer. mais ce qu'il doit payer. Alors toute la difficulté est dans la répartition de cette somme, parce que le roi manque d'appareils statistiques, il n'a aucune idée de ce qu'on appellerait aujourd'hui le produit intérieur brut. Donc il ne sait pas du tout ce qu'il pourrait demander. Hein. Et au XVIIIe siècle, on essaye justement de faire des enquêtes, la population, la production des grains, pour essayer d'avoir une petite idée de la richesse du royaume, dont tout le monde voit bien qu'elle est quand même très importante. N'oublions pas qu'au XVIIIe siècle, la France, c'est les États-Unis de l'époque. Hein. C'est le premier royaume du temps, le plus peuplé, le plus grand, le plus riche.
Alors on va voir comment ce système fiscal va évoluer tout au long du XIXe siècle dans un instant.
Bien des gens, paraît-il, ne paient pas leurs impôts et traitent ceux qui les payent de poire et de ballot. Moi, je n'approuve pas ça, je dis que ça n'est pas permis. Et constamment, je demande aux parents, aux amis, as-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? Tes coupons des mines de gruyère et les pots de vin que tu as reçus? Tout ce que t'as gagné à la bourse, tout ce que t'as ramassé aux courses, ton 5% de tes caoutchoucs et tes fonderies de caramel mou et tes valeurs pétrolifères et ta fabrique de nouilles au jus, as-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? Il en est chaque année qui ne déclare rien, pas plus leurs 5 chevaux que leurs bonnes ou leurs chiens, afin de les forcer à faire tous leurs devoirs. Je dis à tous les gens que je vois sur le trottoir, as-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? T'es de Larbin, ta cuisinière et ta villa d'Honolulu. Ton cheval et ta bicyclette, ton frotteur et ta trottinette, ta clarinette et ton piano, ta TSF et ton cabot, et l'or que t'as sur les molaires de ton vieux jardinier barbu, as-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? Comme dans notre budget, il y a toujours des trous. Vous verrez qu'un beau jour, faudra payer sur tout. On payera sur sa femme et sur son perroquet. Ce jour-là, je dirai à ceux qui ne payent jamais, as-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? As-tu déclaré ton grand-père, ton écumoire et ta tortue? As-tu déclaré tes lunettes, ta sœur et tes boutons de manchette, ton rasoir star et ton blaireau, tes draps à pipe et ton yo-yo? As-tu déclaré ta belle-mère, ta bassinoire?
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho? C'était As-tu déclaré tes revenus de George Milton. Nous sommes avec Mireille Touzry et Jean-Marie Monnier. Nous poursuivons notre histoire de l'impôt. Alors nous évoquions à l'instant la rupture que constitue la Révolution française, mais il n'y a pas encore cette volonté de redistribuer les richesses dans le système d'imposition issu de la Révolution. Les impôts servent toujours à financer les dépenses régaliennes de l'État, Mireille Touzry.
Oui, cette idée de redistribution, elle va monter progressivement, et surtout à partir de 1848, il n'y a pas de hasard, hein, le suffrage universel. Et il faut dire aussi, en même temps que les problèmes sociaux se font aigus, j'entends d'un point de vue économique. Finalement, la société d'Ancien Régime voit assez peu ses... Enfin, on est dans un autre régime d'égalité, ou d'inégalité surtout. Et avec la révolution industrielle, on va voir apparaître de nouveaux types de revenus, et d'une, hein, les actions, tous les revenus du capital, finalement. Hein. Et puis, de nouvelles conditions de vie et un creusement des écarts sociaux. Avec des risques de tensions, de révoltes, qui étaient tout à fait connues sous l'Ancien Régime. Les révoltes, il y en a tout à fait régulièrement, mais qui ne sont pas du même ordre. Hein. Ce sont des révoltes qui vont être massivement antifiscales. Et puis sinon, quand on est dans une situation complètement misérable, en fait, on meurt de faim sous l'Ancien Régime. Hein. Il y a peu de révoltes de la faim. On va se révolter vraiment contre l'impôt. Tandis que là, les tensions sociales, dans ce régime qui, sur le papier, est égalitaire, c'est peut-être ça qui rend les choses complètement insupportables, va obliger à voir la fiscalité différemment.
Et en même temps, Jean-Marie Monnier, le 19e siècle, ça va être le siècle de la bureaucratisation et de la professionnalisation de l'administration fiscale.
Oui, il y a... Alors d'abord, il faut bien voir que cette fiscalité, elle sert à assurer la domination politique. Puisque le suffrage, il est censitaire. C'est-à-dire que pour la bourgeoisie, il faut payer de l'impôt, puisque c'est ce qui permet de voter. Donc, d'élire qui on veut élire, mais pas trop, bien évidemment. Donc, on a un système dans lequel la fiscalité directe est faible. Vous avez raison. Et autour de ce système finalement, où on voit émerger déjà rapidement les inégalités, se greffe une administration, se fabrique une administration répartie en régie, l'une pour les droits indirects, une administration pour les droits directs, une régie pour les hypothèques. Bref, on met en place un ensemble de... très rapidement, au début du 19e siècle, on met en place une administration souvent détestée. La régie des indirects et les fonctionnaires de cette régie sont détestés parce qu'ils ont la possibilité de descendre dans les caves, aller voir qui produit de l'alcool, du vin, etc. et qui ne paye pas ces taxes. Donc, on a une administration extrêmement centralisée, finalement, qui se met en place.
Après une décennie révolutionnaire qui avait justement été marquée par l'utopie d'une décentralisation de l'impôt.
Voilà, exactement. Et cette administration, elle fait l'effort d'aller encaisser sur place. Elle se déplace en quelque sorte, mais elle est très présente et souvent pas très aimée.
Alors la frontière entre bureaucratie et capitalisme n'est pas aussi étanche qu'il n'y paraît. On peut encore parler au 19e siècle d'un système fisco-financier, Mireille Touzry.
Non, là, je pense pas. Le système fisco-financier très caractéristique de l'Ancien Régime, vraiment les intérêts privés financiers là, sont très très imbriqués aux intérêts de l'État, parce que déjà la distinction entre les finances de l'État et les finances du roi n'est pas bien faite. Les ministres n'ont pas vraiment de traitement non plus, ni personne. Ce sont des gratifications. Donc Mazarin donnera sa fortune au roi. Tout ça est extrêmement perméable, et le roi gouverne en utilisant énormément le crédit des personnes privées, donc qui lèvent de l'argent de leur côté, sont aussi des agents de l'État. Tout est mélangé. Je pense pas qu'on puisse dire la même chose au 19e siècle. Au contraire, la Révolution a bien serré les fonctions. Et justement, c'est la naissance du fonctionnaire salarié. Là, les choses sont claires.
Alors, que se passe-t-il au 19e siècle si l'on ne paye pas ses impôts? Écoutons la plainte d'un contribuable du Haut-Rhin nommé Schiffmann. Dans une lettre écrite en 1867, il proteste contre la visite à son domicile du garnissaire, cet agent chargé de récupérer les impôts impayés.
Monsieur le procureur impérial, j'ai été l'objet d'une odieuse infamie qui, à mes yeux, n'a pas d'autre motif qu'une vengeance personnelle. Samedi 21 septembre, pendant mon absence, car j'étais en voyage toute la journée, l'agent Munchy se présente à mon domicile et remet à ma domestique le bulletin jaune. À 9h, il se représente une seconde fois avec le bulletin violet, puis s'installe sur une chaise en disant qu'il ne quitterait la maison que dans 48 heures et qu'on aurait à le nourrir et le loger. La domestique, étonnée, fit immédiatement part à Madame Schiffmann, alitée par suite de couches, de l'agréable visite qui nous était adressée par le percepteur. Ma femme, justement indignée et effrayée, envoya la sage-femme, qui était à lui donner des soins, chez M. Sonley en le priant de faire quitter son agent jusqu'à mon retour. Mais le percepteur répondit que le porteur de contrainte était à mon domicile et qu'il y resterait, et que si on le nourrissait pas, il irait à nos frais dans un hôtel de la ville. Ma femme fut alors obligée de quitter son lit pour envoyer le montant de ma contribution pour l'année, s'élevant à 202,20 francs, pour se débarrasser du garnissaire. Veuillez remarquer, monsieur, que si mes contributions n'étaient pas acquittées au 21 septembre, c'est que le percepteur en était lui-même la cause. Car je m'étais présenté plusieurs fois dans son bureau sous les règles, et je l'ai trouvé fermé, et que j'étais depuis un mois aux eaux de Vichy pour cause de santé. Vous comprendrez, monsieur le procureur impérial, que ces procédés n'ont d'autre but que de chercher à me rendre ridicule par l'installation d'un garnissaire à mon domicile ou de nuire à mon crédit ou à ma réputation.
Voilà, on l'entend, en cas de retard de paiement, le percepteur peut recourir à ce qu'on appelle la garnison individuelle. Un garnissaire s'installe à domicile, au domicile du contribuable pour y être nourri et logé pendant 2 jours, Mireille Touzry.
C'est ce qu'on faisait aussi sous l'ancien régime. On envoyait une garnison, effectivement, et puis aussi on envoyait le syndic du village en prison jusqu'à ce que la dette soit acquittée. Seulement, la différence, c'est que c'était collectif, puisque c'était une collectivité, la commune, qui devait payer. Je rassure les auditeurs, la prison pour le collecteur assayeur n'était pas du tout terrifiante. On pouvait entrer, sortir, se faire amener de quoi manger. On n'était pas dans un cul de batte fausse. Mais enfin, c'était quand même ennuyeux.
Et ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que les révoltes fiscales se poursuivent jusqu'au milieu du 19e siècle. Jean-Marie Monnier, en cela, on peut dire qu'il y a une continuité, là encore, avec l'Ancien Régime.
Oui, on continue à observer des révoltes fiscales. De toute façon, on pourrait dire d'une certaine manière qu'on continue à en observer au XXe siècle et très tardivement dans le XXe siècle. Donc c'est une constante que les révoltes fiscales, c'est sans doute lié aussi au fait que l'impôt s'immisce en quelque sorte dans la vie économique et en quelque sorte ceux qui sont déclassés par les transformations économiques. Et le XIXe siècle en connaît une majeure. Ceux qui sont percutés par ces transformations économiques supportent d'autant plus mal d'avoir à acquitter l'impôt et se révoltent. C'est une constante, ça.
Mais pourtant, on peut quand même dire que ces révoltes fiscales disparaissent ou presque dans la seconde moitié du 19e siècle. La révolte telle qu'on les a connues sous l'Ancien Régime.
Oui. Encore que là, la révolte des Bretons, il n'y a pas longtemps, là, pour ouais. l'écotaxe, c'était quand même exactement ça. Hein, c'est... Et là, la manifestation qui doit avoir lieu prochainement là, contre la hausse du prix du diesel, on est tout à fait dans le même esprit. Alors, il y a la révolte, là, il y a des manifestations organisées, et puis il y a aussi... Des pratiques de fraude qui sont permanentes. Hein. Il y avait eu un épisode, moi, qui m'avait énormément frappé. Quand on a modifié la perception de la vignette et que les départements ont pu mettre des tarifs différents, eh bien, on a vu des gens aller se faire immatriculer dans la Marne, à Reims, parce que c'était le département le moins cher. Et donc, on a retrouvé exactement les mêmes mécanismes que pour la gabelle, hein, avec de la contrebande, en fait. Et puis, la contrebande, elle existe encore dans nos zones frontières pour le tabac. Ah, par exemple, hein, c'est un gros problème qui doit se traiter à l'échelon européen, c'est pas évident. Mais les pratiques, finalement, que ce soit les frontières de l'Hexagone ou les frontières entre la Bretagne et le Poitou, c'est le même principe.
On a évoqué tout à l'heure ces quatre contributions de la Révolution française qu'on surnomme les quatre vieilles. Et au fur et à mesure de la seconde moitié du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, on a le sentiment que ce système semble de plus en plus incapable de pourvoir au financement des nouveaux besoins de l'État, qu'ils soient militaires ou sociaux. Et ça va entraîner un certain nombre de discussions, en particulier à partir du début du 20e siècle, Mireille Touzry.
C'est-à-dire que les besoins de l'État ont grossi et surtout se sont normés. On pourrait dire ça comme ça. Parce que, par exemple, au début de la Révolution, il y a un livre qui fait scandale. C'est la découverte du livre rouge des pensions du roi. Et quand on les regarde de façon très précise, ces pensions, bien sûr, il y a les Polignac, etc. Mais enfin, les trois quarts, ce sont quand même des soldats retraités, des gens de ce type. Donc, vous voyez, c'est un type de fonctionnement. Et après la Révolution, non, les choses sont bien plus organisées. Donc l'État a grossi, puis il a grossi dans ses besoins. On finance le clergé, il y a une éducation nationale qui se met en place. Donc le contribuable en a aussi beaucoup plus pour son argent, évidemment.
Jean-Marie Monnier, l'intervention croissante des pouvoirs publics, la montée en puissance de l'État social suppose de rénover les outils de prélèvement.
Oui, tout à fait. On assiste en quelque sorte à un épuisement de ce système fiscal qui est basé... pour la fiscalité directe en tout cas, sur des grandeurs foncières et sur, par ailleurs, la fiscalité indirecte. Il y a une montée de la part des contributions indirectes dans le budget de l'État, tout à fait impressionnante durant le 19e siècle. Et en 1913, on a une répartition, en quelque sorte, un tiers fiscalité directe, deux tiers fiscalité indirecte. Or, la fiscalité indirecte, on est dans la phase de développement du capitalisme industriel. Se produit la révolution industrielle. Or, la fiscalité indirecte, c'est quoi? C'est un frein au débouché de l'industrie nationale, puisqu'elle taxe le consommateur. Donc, elle freine les débouchés français de la production française. Et puis aussi, cette fiscalité, la fiscalité directe, freine l'investissement, puisqu'elle taxe le foncier et qu'on a besoin que les usines utilisent des espaces relativement importants.
C'est ce qui explique, Mireille Touzry, que le débat sur l'impôt sur le revenu revient avec plus de force au début du XXe siècle, même s'il existe depuis le milieu du XIXe.
Oui, parce que tout le monde, finalement, se met à avoir intérêt à l'impôt sur le revenu. Comme vient de l'expliquer mon collègue, il y a un intérêt des milieux patronaux, capitalistes, pour faire fonctionner l'économie. Il y a aussi un intérêt politique large. Si on n'introduit pas davantage de justice fiscale, on risque des mouvements révolutionnaires. Et là, c'est pas du tout une vue de l'esprit, puisqu'il y a eu le printemps des peuples en 1848, et d'une, et de deux, en France, la Commune de Paris, qui a quand même fait extrêmement peur. Donc c'est cette peur des partageux, comme on dit à l'époque, qui va pousser dans le dos, non sans mal, les députés, pour qu'ils enfin mettent en place un impôt sur le revenu plus juste que cette dominante de la fiscalité indirecte.
Et alors les deux grandes nouveautés de cet impôt sur le revenu, c'est que d'un côté, désormais, on s'appuie sur les déclarations des contribuables et non plus sur les indices extérieurs de richesse, et désormais, cet impôt va être progressif et non plus proportionnel, Jean-Marie Monnier.
Oui, en fait, il est composé de deux parties. Un ensemble d'impôts sur des catégories de revenus, les catégories de revenus que l'on retrouve aujourd'hui, des cédules, comme on les appelle, donc des impôts cédulaires. Et puis à côté, on a une sorte de surtaxe, vous voyez, c'est un impôt de superposition progressive qui contient effectivement la progressivité. L'idée, en quelque sorte, c'est de faire varier les taux des impôts cédulaires de façon à surtaxer les impôts revenus fondés, et d'aider les revenus gagnés, ceux qui proviennent de l'industrie, ceux qui sont gagnés par l'activité économique. Voilà en quelque sorte l'idée avec cette surtaxe progressive qui introduit de la justice fiscale.
Mais alors ça suscite des débats très vifs. En 1907, l'économiste Paul Leroy Beaulieu met en garde contre le danger de l'inquisition fiscale. Et il va falloir attendre 1914 pour que cet impôt soit enfin adopté, donc juste avant le déclenchement de la Grande Guerre. Mireille Touzry.
Oui, les débats sont extrêmement vifs et ce qui est fort intéressant, c'est qu'ils mobilisent des mémoires différentes. Ceux qui s'opposent à l'inquisition fiscale vont dire c'est la taille personnelle, ce sont les officiers des aides, les rats de cave qui viennent fouiller dans vos caves, qui viennent détailler vos revenus. C'est le retour assuré de l'inégalité. À quoi on peut leur dire cette inégalité, c'est peut-être de la justice, tout simplement. Et il y en a d'autres qui disent c'est la révolution sociale qui arrive derrière l'impôt progressif. À quoi la gauche leur répond oui, enfin, en Allemagne, de l'autre côté du Rhin, Bismarck, qui n'est pas un dangereux révolutionnaire, l'a bien mis en place sans que ce soit l'apocalypse en Allemagne. C'est une période très très riche en travaux historiques. C'est à ce moment-là que sont publiées les premières grandes histoires financières de la France. Et on s'intéresse justement à ce passé de l'Ancien Régime, qui pour cette époque est quand même quelque chose de relativement proche. Ce sont les grands-pères qui ont connu la Révolution. Et dans des documents, et moi j'en ai vu même des années 1920, c'est pas rare qu'on trouve le terme de taille pour désigner l'impôt foncier, c'est quand même quelque chose.
Et alors c'est dans les décennies qui vont suivre, Jean-Marie Monnier, en particulier à partir des années 20 puis des années 30, que l'impôt va permettre véritablement l'émergence de l'État social, que cette idée de redistribution émerge vraiment ?
Oui, parce que derrière la mise en place de l'impôt sur le revenu, bien évidemment, c'est la constitution des prémices. Des origines de ce qui va constituer notre État-providence, dans les grands pays, en Angleterre, en Allemagne, comme cela vient d'être dit. En quelque sorte, l'introduction de l'impôt sert aussi de levier à l'introduction de nouveaux modes de financement pour cet État social. Il ne faut pas oublier que au lendemain de la Première Guerre mondiale, toute une population... pas seulement les pauvres traditionnels, mais il faut financer aussi les gueules cassées, il faut financer tous ceux qui sont ressortis blessés de la Première Guerre mondiale. Et donc c'est un impératif, effectivement. Je voulais ajouter qu'il ne faut pas oublier que l'impôt, il est adopté en deux temps, 1914-1917. Et 1917, c'est crucial, c'est la guerre des tranchées.
Et c'est là que sont supprimées véritablement les quatre vieilles dont on parlait. Alors justement, le sujet de notre discussion de demain, ce sera comment allier fiscalité et justice sociale. Et donc on continuera cette discussion demain. Un grand merci à tous les deux. Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir sur la décision du gouvernement d'utiliser les réseaux sociaux pour traquer les irrégularités fiscales.
Oui, le ministre du Budget, Gérald Darmanin, a ainsi évoqué dans une émission diffusée hier soir qu'il comptait lancer une expérimentation visant à utiliser les publications diffusées sur Facebook, Instagram et autres Twitter afin de traquer les incohérences entre les éventuels signes extérieurs de richesse et les revenus déclarés. Le ministre a ainsi expliqué que l'objectif était de développer l'exploration des données personnelles présentes sur les réseaux sociaux, ce que l'on appelle le data mining, afin de cibler les contrôles vers les cas qui semblent les plus suspects.
Il a précisé vouloir, je cite, « mettre les réseaux sociaux dans une grande base de données ».
Oui, et outre les problèmes évidents que posent de telles méthodes en matière de respect de la vie privée, on peut également s'interroger sur la difficulté qu'auront les pouvoirs publics à mener à bien de tels contrôles. Les réseaux sociaux ne sont-ils pas le reflet volontaire et déformé d'une vie que l'on veut la plus attrayante possible ? Comment, dans ces conditions, faire la différence entre les signes d'une forfanterie propre aux réseaux sociaux et les signes d'une véritable richesse cachée. Mais il est surtout intéressant de revenir et de s'interroger sur le retour historique qu'opère une telle décision. Car comme on a pu l'apprendre au cours de cette émission, l'impôt a longtemps été récolté sur le fondement de ses richesses extérieures. Ce n'est qu'avec la mise en place d'une imposition moderne fondée sur la déclaration et donc sur le consentement que l'on s'éloigne peu à peu de ce modèle.
On reviendrait donc aujourd'hui sur le pacte tacite existant entre État et citoyens.
Oui, en réalité ce pacte a déjà subi de nombreux outrages et cette expérimentation du gouvernement n'est qu'une nouvelle manifestation de son incapacité à faire face à la sécession croissante des élites économiques en matière fiscale. Face au développement de l'évasion et des stratégies de contournement de l'impôt, l'État a dû revenir à des méthodes presque traditionnelles, artisanales, fondées sur l'observation des biens pour faire revenir dans son giron les ressources qui lui sont dues. On passe ainsi du déclaratif à l'analytique, la parole des citoyens ne suffit plus et le lien établi avec l'État s'affaiblit à mesure que baisse le consentement à l'impôt de ses membres les plus riches. Dans un retournement ironique de l'histoire, il semblerait que l'État soit désormais obligé de revenir à une forme de contrôle du paraître de ses citoyens. On connaissait l'impôt sur les portes et fenêtres, censé signifier par leur profusion la richesse de leurs détenteurs. On traque désormais les signes de cette opulence cachée dans les photos d'une fête à Ibiza ou d'une virée en Lamborghini. Rien de nouveau bien sûr dans ce type de procédure, mais il semblerait que nous aurions aujourd'hui franchi un cap.
Le gouvernement a d'ailleurs fait passer l'année dernière une taxe dite sur les signes extérieurs de richesse.
Oui, et même si après le veto du ministre de l'économie et le vote de la majorité, il ne restait plus grand-chose d'un texte laissant volontairement de côté jets privés, chevaux de course et œuvres d'art, mais augmentant la fiscalité des yachts et des voitures de sport selon une logique qui nous dépasse. On est d'ailleurs bien loin des 40 millions d'euros visés par le gouvernement grâce à ce nouveau prélèvement. Ainsi, la taxe sur les yachts n'a finalement rapporté que 82 000 euros, bien loin de l'objectif de 10 millions d'euros d'euros fixés par le gouvernement, bien loin surtout des 3,2 milliards d'euros d'exonération fiscale accordée par le gouvernement avec la suppression partielle de l'ISF. Bercé par le mythe du ruissellement, le gouvernement soutient l'intérêt de cette mesure en expliquant qu'elle incitera les plus riches à investir dans l'économie plutôt qu'à acheter de grosses voitures. En réalité, ces nouvelles taxes agissent comme un écran de fumée visant à donner l'illusion d'un équilibre de la politique fiscale du gouvernement. Elles apparaissent comme un gadget permettant aux politiques de châtier symboliquement les plus riches pour éviter de véritablement les taxer.
I said to my Uncle Sam, old man taxes, here I am, and he was glad to see me. Mr. Small Fry, yes indeed, lower brackets, that must eat, and he was glad to see me.
On se quitte sur I Paid My Income Tax Today de Gene Autry. Merci beaucoup Mireille Touzry, professeure d'histoire moderne à l'Université Paris-Est-Créteil. Je rappelle votre livre, L'invention de l'impôt sur le revenu, la taille tarifée, 1715-1789. Et merci à vous Jean-Marie Monnier, professeur d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Votre livre Parlons impôts en 30 questions a été publié à la Documentation française. Et vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag entendez-vous. Rendez-vous l'écho.
We never cared what Congress spent, but now we watch your every cent, examine every bill they pay.
They'll have to let us have our say. I wrote the Treasury to